Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Frédéric Descrozaille, député du Val-de-Marne, membre de La République En Marche. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Frédéric Descrozaille, le chômage a baissé de 5,5% au troisième trimestre. Dans un instant, nous allons parler d'une initiative que vous avez prise pour aider les demandeurs d'emploi. Mais d'abord, comment expliquez-vous la baisse du chômage constatée en France ?
Par la vigueur de la reprise économique, c'est le premier élément, je pense, et par les dispositions que certaines dispositions que nous avions adoptées avant. Je pense à la facilitation de tout ce qui est apprentissage, les contrats d'alternance qui marchent très très fort, puisqu'il y en a eu plus de 500 000 en 2020, sachant que c'était plus 40% par rapport à 2019, qui était déjà un taux de croissance à deux chiffres. On a mis beaucoup d'argent aussi là-dessus, en fait, hein, pour aider les entreprises. Donc, en fait, il y a des dispositions qui ont été votées avant pratiquement la crise, qui étaient des dispositions préparant l'avenir et qui permettent à la France, contrairement à la plupart des autres crises précédentes, de redémarrer beaucoup plus fort, alors que la France était réputée pour amortir le choc des crises un peu mieux que les autres, mais redémarrer façon diesel. Là, c'est absolument pas le cas. C'est un coup de booster fantastique qu'il y a eu dans la gestion de la crise. Le fait que les écoles n'aient pas été fermées joue aussi dans la continuité d'un certain nombre d'activités professionnelles qui ont été très aidées. Et donc, ce redémarrage fait que la consommation tire l'économie. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu. Et donc, il y a énormément d'entreprises, y compris de métiers en tension, d'entreprises qui recrutent et qui peinent à trouver sur le marché du travail les profils qu'elles cherchent.
Alors, vous êtes député, mais vous êtes par ailleurs un professionnel du recrutement et vous avez décidé de réaliser une web-série sur les réseaux sociaux où vous donnez des conseils aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux employeurs. Une web-série qui est réalisée au moment où s'arrête la fin du quoi qu'il en coûte. Comment est née cette idée, Frédéric Descrozaille ?
C'est une idée qui m'est venue un peu progressivement parce que je souhaitais depuis 4 ans, j'ai rencontré énormément d'acteurs qui travaillent sur le front de l'emploi, évidemment des représentants des entreprises, des demandeurs d'emploi, le secteur associatif du réseau d'insertion par l'activité économique, en essayant de lutter contre la sclérose du marché du travail en France. La rencontre se fait mal entre ceux qui offrent des jobs et ceux qui en demandent, ceux qui en cherchent. Principalement pour des raisons de fonctionnement en silo, en fait, qui privilégient l'entre-soi et qui sont beaucoup trop strictes avant même de commencer la recherche dans les critères qui sont appliqués des deux côtés du reste. Et l'idée m'est venue à la suite d'un forum qui s'appelle Boost ton avenir à Créteil, dans le hall entreprise. Je n'ai rencontré que des entreprises, tout secteur, tout métier, qui avaient du mal à recruter. Mais pas seulement des opérationnels qualifiés dans le bâtiment ou la santé, par exemple, mais des profils RH comptables dans ce qu'on appelle le back-office, sur la grande distribution, l'aide à la personne, absolument tout secteur. Et donc, je me suis dit que je voulais témoigner de ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai vu, des dysfonctionnements du marché du travail, pour fluidifier et faciliter les rencontres entre les demandeurs d'emploi et les entreprises.
Alors Frédéric Descrozaille, dans ce programme vidéo nommé Les embauches, vous donnez des conseils pour augmenter ses chances d'être embauché. Certaines personnes envoient des dizaines, voire des centaines de CV sans jamais obtenir de réponse. Comment éviter ce genre de déception ?
En fait, je pense qu'il faut surtout pas envoyer des dizaines et encore moins des centaines de CV. Le premier conseil que je donne à quelqu'un qui cherche du travail, c'est de ne surtout pas tirer sur tout ce qui bouge et diffuser indistinctement les mêmes CV et quasiment les mêmes lettres de motivation avec du copier-coller partout à toutes sortes d'entreprises. Cette façon de dire, d'attirer l'attention en envoyant des bouteilles à la mer tous azimuts, en se disant bah il y en a bien un qui va ouvrir et qui va regarder. Je crois qu'il faut surtout pas faire ça parce que ce qui déclenche l'envie de rencontrer quand on est recruteur, je pense que quand on est chef d'entreprise ou qu'on est chargé par une entreprise de repérer des candidats, c'est de repérer quelqu'un qui a sélectionné son emploi, quelqu'un qui a envie de travailler pour l'entreprise à laquelle il s'adresse. C'est cette sélectivité dans la recherche, paradoxalement, qui induit déjà un petit peu de rareté. C'est-à-dire que quand vous êtes un chercheur d'emploi et que vous êtes sélectif, que vous envoyez quelques lettres de motivation, une demi-douzaine par semaine, grand maximum, le lundi matin, vous regardez les job boards, vous filtrez, vous repérez ce qui peut vous convenir, là où vous êtes curieux de rencontrer un chef d'entreprise. Ça se sent, et quelqu'un qui se permet d'être sélectif, c'est un gage de motivation. Et c'est le premier élément qui compte. Quand vous recrutez, vous avez d'abord envie d'avoir quelqu'un qui est motivé, qui va pas vous dire au bout d'un mois, finalement j'ai trouvé autre chose, qui va pas arriver en retard le troisième jour après son embauche, qui va prendre ça au sérieux, c'est-à-dire qui va avoir envie de réussir, donc de ne pas décevoir, et qui va être engagé. C'est ça, en premier, il faut faire sentir quand on est candidat.
Dans l'une de vos vidéos, vous dites qu'un candidat à un poste doit être le plus honnête possible, y compris sur ses échecs. Vous voulez dire que ce qui peut intéresser un recruteur, c'est la façon dont un candidat a pu surmonter les obstacles ?
Je pense absolument que... Une embauche est réussie lorsque la rencontre fonctionne, lorsqu'il y a eu envie de collaborer ensemble, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un climat de confiance et une complémentarité qui s'installe. Et pour ça, il faut qu'il y ait une rencontre en vérité. Ça ne peut pas être une rencontre superficielle, encore moins qui repose sur le sable du mensonge ou de la dissimulation. On est tous passés par des phases difficiles, on a tous vécu des choses qui ne rendent pas fiers. La façon dont on en parle, la façon dont on ne va pas se cacher les difficultés qu'on a pu avoir, ça parle de soi-même, ça parle du tréfonds de soi, ça parle de ce qu'on est comme personnalité. Et c'est ça qui permet la rencontre. Et ça peut être effectivement quelque chose qui va convaincre. Ça, je l'ai vu, j'en ai eu des témoignages, d'acteurs qui disent c'est la façon dont telle personne a parlé de cette année difficile ou de cet échec qui m'a convaincu que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui m'avait donné envie de continuer. Donc oui, il faut surtout pas mentir et surtout pas dissimuler, même si évidemment il y a plusieurs façons de parler de la même chose. Et il faut pas faire ressortir des défauts, battre sa coulpe et faire apparaître. Il faut montrer de la combativité, une capacité à prendre du recul. Donc, y avoir réfléchi, en fait. Mais c'est cette façon de regarder ses propres échecs et la façon de les avoir surmontés qui peut être très intéressante, très convaincante dans un entretien.
Et Frédéric Descrozailles, ce qui est intéressant avec cette web-série, c'est que vous vous adressez aussi bien aux personnes qui cherchent un emploi qu'aux employeurs. Et vous invitez les employeurs à prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, dites-vous.
Ah ben oui, parce que la peur de se tromper, la hantise presque, c'est ce qui est complètement normal quand vous recrutez, c'est de l'humain. Un employeur n'est pas quelqu'un qui tombe dans un magasin, devant un rayon, à regarder quel est le produit qui va lui plaire. C'est bien autre chose. Il rencontre des gens, il essaye de s'imaginer dans le temps avec la personne qu'il a en face de lui. Et sur la base d'un entretien court, c'est très très difficile de repérer si ça va marcher ou pas. Et cette hantise, cette peur de se tromper, va donner une surreprésentation, donner une surimportance, une surpondération à des éléments qui rassurent et qui sont pas les bons, c'est-à-dire qui portent sur ce qui s'est déjà passé. Et je vais être rassuré si j'ai quelqu'un dont j'ai la preuve, grâce au CV, grâce à son expérience, qui connaît mon secteur, mon métier, et qu'il a à peu près fait la même chose que ce que je vais lui proposer. Ce qui est un très, très, c'est une très mauvaise base. La caricature, si vous voulez, c'est un client qui me disait j'ai tel poste à pourvoir, j'ai tel cadre qui s'en va. Et je lui disais qu'est-ce que vous voulez que je vois avoir comme profil ? Il dit grosso modo la même chose que mon concurrent, c'est-à-dire les cadres, si en gros, si vous pouvez débaucher un exécutif qui travaille très bien chez un concurrent, ça serait super. Et moi je disais, mais donc vous voulez faire la même chose que votre concurrent ? Ah non, je veux me distinguer, je veux faire autre chose, je veux faire mieux. Donc il faut surtout pas que je prenne les gens qui travaillent chez ce concurrent. Et c'était une façon d'introduire le fait qu'il faut être ouvert. On se rassure en se disant, si je prends quelqu'un qui connaît le truc et qui fait déjà ce qu'il a fait, ça va être opérationnel, mais c'est pas ça qui fait qu'une embauche marche ou pas. c'est l'humain, c'est la personnalité, c'est l'adéquation entre la personnalité et les responsabilités qui vont être confiées. C'est pas le fait que la personne a déjà fait ce qu'elle... À la limite, au contraire, il vaut mieux prendre quelqu'un qui l'a encore pas fait, qui n'a pas encore donné le meilleur de lui-même ou d'elle-même, et qui va s'épanouir là où, justement, cette personne va se trouver travailler. Donc, en cela, il faut prendre le risque, parce que c'est incertain, parce qu'on est dans l'humain, mais c'est ce risque qui est merveilleux, parce que quand la rencontre marche, quand cette embauche réussit, ben c'est là qu'on a des embauches qui permettent de booster les entreprises.
Ce que vous montrez avec cette web-série, c'est que la question du chômage ne dépend pas que des incitations proposées par un gouvernement, un conseil départemental, c'est aussi de l'humain.
Alors ça, je crois que c'est même surtout cela. Je crois que l'action publique peut définir un cadre, peut protéger la sécurité de contrats, de statuts, de droits, peut rassurer de ce point de vue-là sur ce qui peut escamper les intérêts d'une entreprise, les droits d'une personne. Donc ça, c'est un cadre qui va permettre de protéger les acteurs, mais après, c'est tout repose sur l'humain, sur les personnes. Une embauche, ce n'est que ça, ce ne sont que des rencontres. Le recrutement, ce sont des rencontres. Et le management, c'est un savoir-faire qui porte sur la complémentarité, l'accompagnement de personnes dans la diversité de leur personnalité et de leur mode de fonctionnement. Ce n'est que cela. J'ajouterais même que, malgré le fait qu'on a beaucoup de métiers, notamment dans le régalien, qui méritent qu'il est urgent de revaloriser. Je pense aux enseignants, je pense aux policiers, je pense aux soignants. Et nous avons, de ce point de vue-là, engagé beaucoup de choses sur la revalorisation des salaires minimums dans la fonction publique. Amélie de Montchalin a eu une action politique très volontaire en privilégiant une catégorie de fonctionnaires dans son augmentation. Ben, malgré cela, ce n'est le salaire, ça n'est qu'un tout petit bout du fait qu'une embauche va marcher et qu'une personne va s'épanouir. Tout le reste des conditions de travail, la relation avec son supérieur, la relation avec les collègues, l'ambiance, le sens que l'on va trouver à ses journées, la vision d'ensemble, la clarté de la stratégie, tout ça, ce sont des éléments absolument essentiels qui sont constitutifs du bien-être au travail.
Frédéric Descrozaille, des centaines de milliers d'emplois ne sont pas pourvus, même s'il y a une baisse du chômage. Comment l'expliquez-vous ?
Je pense que le marché du travail en France est plus sclérosé qu'ailleurs. Je pense que nous savons moins bien en France miser sur l'avenir et miser sur des rencontres pour être plus ouvert dans la façon dont on va gérer des inflexions de carrière, des ruptures dans la carrière, des parcours moins linéaires et ascensionnels, qui sont ceux de nos modèles, et en particulier de nos modèles de retraite d'ailleurs. C'est bien un des motifs de la réforme que nous avons que nous avions commencé juste avant la crise Covid. Donc en fait, il y a cette difficulté-là. Après, il y a une autre difficulté qui est une transformation très très rapide du monde, qui fait qu'aujourd'hui, le contenu d'une formation qualifiante, je parle de contenu en termes de contenu de connaissances et d'expertise technique, n'a une durée de vie que de quelques années, mais même parfois quelques mois dans le numérique. C'est-à-dire que ce qui compte, ça n'est pas la connaissance qui a été transmise et sanctionnée par un diplôme, c'est un savoir-être, c'est un savoir-apprendre. C'est une façon d'être capable de bouger dans un monde qui change. Ces transformations très rapides font que vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne savent pas trouver les profits qu'il leur faut, surtout s'il leur faut des opérationnels très rapidement, parce que cette qualification n'existe pas sur le marché du travail. On a donc un marché du travail qui doit s'adapter et des contenus de formation qui doivent s'adapter. C'est aussi une réforme que nous avons faite pour que ce soit les branches qui les définissent, ces contenus pédagogiques, pour qu'il y ait cette souplesse dans les profils d'être capable d'affronter les métiers qui vont apparaître, qui apparaissent déjà et qui vont apparaître l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, pour lesquels il n'y a pas de contenu aujourd'hui qui permette de garantir qu'il va y avoir une aisance opérationnelle.
Frédéric Descrozaille, dans le secteur de la restauration, il y a, si mes chiffres sont exacts, 200 000 emplois non pourvus. Dans ce secteur, est-ce qu'il faut augmenter les salaires pour attirer les candidats? Mais je pense aussi à d'autres professions comme le soin, les aidants. Ce sont des métiers qui sont très mal payés.
Alors, il est certain que les salaires doivent augmenter dans la restauration, vous l'avez dit, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'hygiène et sécurité probablement également en entreprise, dans la santé, c'est absolument certain aussi. Il y a beaucoup de métiers qui très longtemps ont été sous-valorisés et qui ont besoin d'être survalorisés, ce qui s'accompagnerait d'un petit peu d'inflation. Je crois typiquement que dans l'alimentaire, l'alimentation a vocation à coûter un petit peu plus cher, je dis bien un petit peu plus cher, pour mieux payer l'ensemble des salaires et d'ailleurs dégager des marges plus significatives, parce que l'alimentation est un secteur qui écrase les marges, les prix et les salaires depuis des décennies. Mais pas seulement. Sur la restauration, je peux vous dire que beaucoup de restaurateurs, les premiers d'entre eux qui vont être inventifs et trouver des solutions d'organisation pour offrir des conditions de travail qui vont rompre avec ce que sont les habitudes, c'est-à-dire avec la fameuse pause dans l'après-midi et sur le coup de feu, c'est à midi et le soir, et puis vous finissez tard le soir et vous avez une pause, dont en général vous ne faites pas grand-chose dans votre vie, en milieu d'après-midi, entre les deux coups de feu. Les premiers qui vont s'organiser de manière à proposer autre chose et un aménagement du temps qui va induire une bien plus grande qualité de vie, je pense qu'ils vont cartonner en termes d'embauche. Parce que dans ce métier-là, c'est pas seulement le salaire. Je sais même pas si le salaire est tellement décisif. Je pense aux serveurs, hein. Je pense aux cuisines. Que si vous proposez une qualité de vie, une meilleure organisation, une meilleure prise en compte de la contrainte, de la vie de famille, du temps libre, pour voir ses enfants, je pense que vous allez beaucoup plus séduire, vous allez beaucoup plus attirer les meilleurs profils que si on reste dans cette organisation qui est très contraignant. En plus, après la crise Covid, je pense que c'est un secteur, la restauration, qui a perdu, au moins 30% de son vivier, c'est-à-dire d'acteurs qui travaillaient dans la restauration et qui, après cette longue phase d'interruption et de chômage partiel, font autre chose. Et ne retourneront pas dans ce métier.
Dernière question, Frédéric Descrozailles. Malgré le bon chiffre du troisième trimestre, les jeunes sont toujours concernés par le chômage de masse. Le revenu d'engagement pour les jeunes annoncé par Emmanuel Macron va permettre de faciliter l'emploi des jeunes.
Alors, ce revenu d'engagement va permettre de faciliter, je l'espère, il doit être fait pour ça, c'est un outil qui est complémentaire, ne se substitue pas à ce qui existe, qui embrasse pour partie ce qui existe. Il va être fait pour développer, faire rayonner, promouvoir toutes les formes d'accompagnement des jeunes qui reposent sur ce qu'ils veulent faire. Je vais vous donner l'exemple de la mission locale de Champigny, qui a développé quelque chose qui marche super bien, qui est très orienté sur la création d'entreprises. La moitié des jeunes qui y passent ne créent pas d'entreprise. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, ce qu'il leur est demandé, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Quel est ton projet ? Tu as le droit de rêver, vas-y. Et les jeunes définissent des trucs, sortent des trucs. Et ben, l'accompagnement est tellement bien fait que, pour une moitié d'entre eux, environ, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas faits pour être chef d'entreprise. Mais à l'issue de cet accompagnement, ils partent en formation, ils partent en contrat d'alternance, ou ils trouvent directement un job. Et c'est cet accompagnement qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut prendre la personne à partir de ce qu'elle veut. C'est en cela où le contrat d'engagement, c'est une façon de tendre la main aux jeunes en disant « Engage-toi, lance-toi sur là où tu veux aller et on t'aidera, on va t'accompagner. »
Merci Frédéric Descrozailles. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.